Chapitre 15. Le mariage de Doris. Le jour du mariage de Doris Gray était arrivé. Le ciel était radieux et l'atmosphère légère. La jeune fille, accoudée à sa fenêtre, qui donnait sur les jardins de Berkeley Square, avait l'âme pleine de pensées confuses et contradictoires. En somme, songeait-elle, il est heureux que les événements me pressent, car si j'avais eu à décider... La veille, elle avait reçu de son fiancé un télégramme daté à sa grande surprise de Bradley. Sans bien démêler pourquoi, elle avait été vaguement ennuyée de voir qu'il pouvait ainsi s'absenter et se livrer à ses occupations habituelles la veille de leur mariage. Elle supposa que son voyage était relatif à l'affaire Tollington, et elle pensa qu'il aurait bien dû rester plus près d'elle, en cette circonstance. Paul Davos se fut sans doute montré plus empressé. Il était revenu la voir dans la journée et avait délicatement évité toute allusion à la cérémonie du lendemain. Mais s'il n'avait rien dit, sa physionomie avait été éloquente. Il avait l'air horriblement malheureux. Elle avait éprouvé de la pitié pour lui, pour la sincérité de sa douleur muette et de son désintéressement. Elle évoquait encore la face contractée de cet amoureux trop tôt éconduit, lorsque sa femme de chambre l'attira de sa rêverie. « Monsieur Debenham est au salon, mademoiselle. » Monsieur Debenham, fit Doris d'un air absent. Ah oui, le notaire. Oh, dites-lui que je descends. Elle trouva l'homme de loi se promenant dans le salon, les mains derrière le dos et la physionomie préoccupée. Vous savez déjà, lui dit-il après l'avoir salué et complimenté, que j'ai l'obligation d'assister à votre mariage. Je dois en effet vous remettre à cette occasion, sitôt après la cérémonie, les clés du coffre de votre oncle à la caisse des dépôts. J'ai ici un mémorandum indiquant exactement le montant des valeurs qui s'y trouvent. Il déposa un papier sur la table. Vous pouvez vérifier cela à loisir, mais en gros, les sommes en question doivent se monter à 800 000 livres, héritage de votre père, décédé lorsque vous étiez tout enfant, n'est-ce pas ? Oui. Ces sommes consistent en titres de tout repos et sur lesquels vous aurez sans doute à toucher de nombreux coupons arriérés. Ce fut, je dois le dire, contre mes conseils que M. Farrington choisit cette façon un peu exceptionnelle de mettre votre fortune à l'abri. Il y a 6 ans déjà, il me fit part de cette idée et j'essayais de l'en dissuader. J'avais tort, car immédiatement après qu'il eut mis son projet à exécution, il fit des pertes énormes et, quoique son caractère fût au-dessus de tout soupçon, on aurait pu craindre que la faillite des Canadian Pacifics eût entraîné à de mauvaises pensées un homme moins fort que M. Farrington. En tout cas, pour le moment, je n'ai qu'à exécuter ma mission, et je suis venu ce matin pour vous demander en outre si votre oncle vous a jamais parlé du millionnaire Tollington, dont il était d'un des exécuteurs testamentaires, mais dont il ne gérait pas, je crois, l'héritage. Doris parut fort surprise. « Il est curieux que vous me demandiez cela, répondit-elle, car justement mon fiancé s'occupe fort de rechercher l'héritier inconnu de Tollington. » « Oui, je sais, répondit M. Debenham. Je me suis permis de vous entretenir de cela, parce que j'ai reçu récemment des communications de la part des autres exécuteurs testamentaires qui sont en Amérique et, d'après ces dernières nouvelles, il est à craindre que les efforts de votre futur mari ne soient vains, à moins qu'il ne découvre l'héritier en question d'ici 48 heures. Mais pourquoi cela ? Les dispositions testamentaires de M. Tollington sont aussi très bizarres, répondit l'homme de loi. La fortune de Tollington, comme vous savez... Mais non, je ne sais rien, je ne suis pas au courant. Alors je vais vous expliquer, répondit-il en souriant. La fortune doit être partagée entre l'héritier et sa femme. Et s'il n'est pas marié? Dans ce cas, la moitié disponible attendra qu'il se marie. Mais une autre disposition exige que cet héritier soit connu 30 ans au plus après la mort de Tollington. Or, ce terme de 30 années expire demain. Pauvre Frank, dit alors Doris, lui qui se donnait tant de mal pour découvrir de nouveaux indices, sinon qu'il ne découvre pas ce mystérieux inconnu d'ici à demain, il ne touchera pas la prime. Je ne pense pas, dit Monsieur de Benham, car les conditions ne seraient pas remplies à temps. Et c'est justement parce que je savais l'intérêt que prenait Monsieur Dampton à cette affaire que je vous ai averti. Je me demandais aussi si, peut-être, votre oncle ne vous avait pas fait quelques confidences importantes à ce sujet. Oh, Monsieur Debenham, pensez-vous que mon oncle aurait pu savoir et me dire qui était ce fameux héritier, et puis ne pas rendre la chose publique? Non, je vous en prie, ne me prêtez pas de si noires pensées, riposta le notaire. Je ne prétends rien soupçonner Monsieur Farrington, mais je sais qu'il était très avisé, calculateur et retors, et je m'étais dit qu'il vous avait peut-être dit certaines choses qui auraient permis à votre mari de gagner la forte prime promise. Elle secoua la tête. Non, dit-elle, il ne m'a jamais parlé de cela, ni d'ailleurs d'autres affaires confidentielles. Il n'était pas fort communicatif et parlait peu. Quoique, au fond, je suis sûr qu'il avait beaucoup d'affection pour moi. Et elle eut les yeux pleins de larmes au souvenir des bontés de son oncle. Mais d'autre part, elle se sentait un peu humiliée devant l'obligation que les dernières volontés de M. Farrington lui avaient créée. Et elle en éprouva une vive confusion. Eh bien, c'est tout, dit M. Debenham. Je vous retrouverai au bureau d'état civil. Et en attendant, je me permets de vous offrir mes vœux les plus sincères pour votre bonheur. Merci, répondit-elle. Y eut-il jamais cérémonie plus prosaïque et plus terre à terre? Songeait Doris en se rendant quelques heures plus tard en taxi au bureau d'état civil. Comme tant d'autres, elle avait rêvé de ce beau jour où elle entrerait dans une vaste église au son des grandes orgues, appuyée peut-être au bras de son oncle. Et voici que tout se réduisait à une ennuyeuse course dans un local obscur, à une signature sur une table poussiéreuse. Frank Dofton attendait sur le trottoir. Monsieur Debenham, accompagné d'un clerc, arriva quelques instants après. La cérémonie fut brève et sans intérêt. Doris Gray devint Madame Dofton sans presque réaliser la signification. Bien, il ne nous reste plus qu'à nous rendre ensemble au bureau de la Banque des dépôts, dit Monsieur Debenham en sortant. Vous ouvrirez votre coffre et, si vous voulez bien m'en donner le pouvoir, je m'occuperai du placement de votre fortune. Frank demeura singulièrement silencieux durant le trajet et Doris lui en fut reconnaissante. Elle avait l'esprit tourmenté. Elle se trouvait la femme d'un homme pour qui elle avait de la sympathie, certes, mais qu'elle n'aimait pas d'amour, comme on dit communément. Ce qui la choquait le plus, peut-être, c'était qu'un autre eût choisi pour elle. Elle regardait Frank du coin de l'œil. Pouh, il n'avait pas l'air plus joyeux qu'elle. Qui sait ce qui adviendrait d'une union si bizarrement commencée? Devant l'imposante façade de la Banque des dépôts et consignations, tout le monde descendit. Il y eut dans le cabinet directorial un bref colloque avec M. Debenham. Et comme les assistants retraversaient le hall, le comte Poltavo parut. Il s'inclina longuement devant la nouvelle mariée, serra la main de Frank et fit un léger salut à Debenham. Le comte Poltavo, annonça ce dernier, doit également assister à l'ouverture du coffre. conformément au désir exprimé par M. Farrington peu de temps avant sa disparition. Frank ne pouvait donc s'opposer à la présence du comte. Il essayait d'ailleurs d'être juste envers lui en se représentant ce qu'il devait éprouver s'il aimait réellement Doris. Un employé de banque en livrée les conduisit dans les sous-sols, à travers d'innombrables corridors, jusqu'au compartiment voûté où se trouvait un coffre de petite dimension. Si petit vraiment, remarqua Frank, qu'on avait peine à s'imaginer qu'il contint une grosse fortune. M. Debenham introduisit la clé dans la serrure et ouvrit. Les assistants, demeurés derrière lui, ne pouvaient apercevoir l'intérieur du coffre. Alors il se retourna et d'une voix altérée déclara « Mais ce coffre est vide !»« Vide ?» s'écria Doris. « Oui, à l'exception de ceci, » reprit le notaire en tendant une petite enveloppe à la jeune femme. Elle l'ouvrit rapidement et lut à haute voix. « Ma chère Doris, j'ai été malheureusement contraint d'employer votre fortune à la réalisation de mes propres affaires. Tâchez de me pardonner. Mais je vous offre plus que vous n'avez perdu en vous donnant un mari. » Elle s'interrompit pour dire « Mais vraiment, mais je ne comprends pas. » Elle tourna le feuillet et poursuivit. « Un mari, Frank Doughton, qui est l'héritier des millions de Tollington, comme son père l'était avant lui. Toutes les preuves de son identité, de ses relations de parenté, se renfermaient dans l'enveloppe cachetée, marquée C, et confiée à M. Debenham. La lettre était signée « Jake Farrington ». Le notaire fut le premier à recouvrer ses esprits. « Je possède, en effet, l'enveloppe à laquelle M. Farrington fait allusion, » dit-il. « Elle porte en suscription qu'elle doit être ouverte que sur instructions nouvelles et précises à ce sujet. Je me permets de vous offrir mes félicitations, M. Doughton. » Celui-ci l'écoutait comme dans un rêve. Lui, l'héritier des fabuleux millions de Tollington. Lui, le fils de George Doughton. Alors un trait de lumière lui traversa l'esprit. C'est Annie qu'il avait tant recherchée. C'était sa propre grand-mère. Entre toutes les femmes qui avaient porté ce nom, pourquoi n'avait-il pas songé à la mère de son père? Il n'avait qu'un imprécis souvenir de la dame à la douce physionomie qui était morte pendant qu'il était au collège. Il poussa une exclamation en se rendant compte que le moment même qui le faisait riche ruinait sa jeune femme. Il se rapprocha d'elle et, tandis que Baltavo les regardait avec un hideux petit sourire, Frank saisit la main de Doris. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. Votre oncle a dû avoir besoin momentanément d'une grosse somme. Cela vous sera restitué. »« Il ne s'agit pas de cela, répondit-elle. Mais ce qui me consterne, c'est l'obligation de m'épouser que vous a imposée mon oncle. Je ne lui en veux pas d'avoir dissipé ma fortune. L'argent n'est rien pour moi. Mais il s'est servi de vous et de moi comme d'instrument. Il vous a fait tomber dans un piège en me prenant comme un morse. Oh, quelle honte !» Elle se couvrit la figure de ses mains. Lorsqu'elle se fut un peu remise, Frank la reconduisit à leur voiture. Le comte Poltavo les regarda s'éloigner en clignant malignement des yeux. « Quel habile homme que ce Farrington !» dit-il au notaire. « Oui, répondit ce dernier froidement. « Mais les prisons d'Angleterre abondent en personnages de cette habileté-là. » Et il s'éloigna sans ajouter un mot.